France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quelle est la différence entre vos épreuves en noir et blanc et vos épreuves en couleur ? La différence, répond le photographe, c'est la couleur. Avec ça. Mais est-ce à l'artiste de définir ses créations ? De William Eggleston, de sa sensibilité à la culture du sud des États-Unis, de sa photographie, ni classique ni romantique, de son fétichisme pour le rouge, il était question le 17 décembre 2014 sur France Culture. Quand on regarde une photo d'Eggleston avec un seul œil, votre cerveau recrée la troisième dimension, effet de profondeur. Sur les docks, le cas Eggleston par Amaury Chardot, réalisation Jean-Philippe Navarre.
Il n'était pas sociologue, d'accord, mais quel photographe. D'avoir su faire des images à partir de presque rien, des images qui sont devenues des icônes, il avait une vision unique. Quand vous voyez The Guide, son premier livre, c'est dingue. Il en a fait d'autres après, mais c'est sûrement celui-ci qui le fera entrer au paradis. Oui, il ira au paradis, même s'il est alcoolique. Bon, ça fait une bonne fin, non ? Ah, vous voudriez que je vous dise que c'était le meilleur et toutes ces conneries ? Mais les gars, vous arrivez 20 ans trop tard.
Au-delà de la chaleur, de l'encouragement, la réaction de Martin Parr, héritier lointain du maître, nous renseigne au moins sur une chose. Aborder William Eggleston, c'est se confronter à l'inconfort d'une énigme. Comme ce courant d'air qui vous frôle l'échine alors que toutes les portes sont fermées. L'intuition que quelque chose, mais quoi, manque dans le paysage. Le calme trompeur des eaux du Mississippi, au bord duquel naquit, il y a 75 ans, cet inclassable dandy. Fétichiste du rouge, à l'heure où l'on ne jurait encore que par le noir et blanc, chérissant son isolement de Memphis quand il fallait être à New York, déclenchant avec économie quand d'autres déroulaient des films entiers d'une même scène. Bill Eggleston s'en moque, il n'est pas là pour rassurer. Et il s'amuse à tendre à son époque un miroir où le présent n'est qu'un étrange souvenir. Dans ses photos, sans titre et presque sans humain, les États-Unis sont un songe. Les voitures à l'arrêt et les stations essence à court de carburant, la modernité y serait une fiction, à moins qu'elle n'ait jamais existé. Le cas Eggleston, par Amaury Chardot et Jean-Philippe Navarre.
Alors il a eu évidemment des imitateurs par tombereau entier. Hein.
Brice Mathieu-Sand.
Parce qu'il y a une sorte de côté déceptif chez Eggleston, c'est-à-dire que...
Écrivain.
Quand il parle de sa première exposition au MoMA, je ne sais plus quel âge il avait, mais il devait avoir 27 ans, 28 ans. Exposition au MoMA en 76. Eggleston a fait exprès de montrer... une esthétique qu'il qualifie, lui, de snapshot, c'est-à-dire de l'instantané, de la photo un peu banale, l'intérieur d'un congélateur bourré de glace, une cuvette de toilette, l'intérieur d'un four ouvert. Bon, ce qui n'avait jusque-là absolument jamais été photographié, ou en tout cas montré, il y a cet attachement très déroutant, toujours aujourd'hui, pour des choses... de l'ordre du fragment, de l'ordre du détail, que personne d'autre que lui ne va voir, que personne d'autre que lui n'aura l'idée de photographier. Donc un côté déceptif de la photographie. D'ailleurs, tout le monde est tombé dans le panneau. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau, les critiques en particulier. Ils se sont dit, mais ça, c'est des images que tout le monde peut faire.
Agnès Cyr, directrice de la Fondation Cartier-Bresson.
À moi, une photo qui m'impressionne énormément, c'est celle-ci, qui est sans titre, hein, qui s'appelle From Los Alamos. En fait, c'est un jukebox sur un mur vert qui m'a inspiré la couleur des murs des salles d'expo. C'est une image qui est tout à fait nouvelle. Celle-là est à circa 71-74, bon, on ne sait pas trop.
Circa, ça veut dire à peu près.
Oui, c'est du latin qu'on utilise autour de... Mais photographier cet objet qui est un très bel objet, où on se dit que plein de gens sont venus mettre leurs pièces et appuyer sur les touches pour avoir le moment de musique qui les intéressait. Il ne l'a pas photographié avec quelqu'un qui va mettre sa pièce. Voilà, il a fait une nature morte, mais c'est une nature morte, pour moi, tellement expressive.
Les années 60, les années 70, ça évoque tout un univers musical américain. En plus, le Sud, y a quand même une dimension musicale évidente. On pense à Janis Joplin, « Buy me a Mercedes-Benz ». Il y a évidemment des Mercedes, mais... plus des voitures américaines hein, chez Eggleston côté Mercedes. Hein. On pense à toute cette musique, on pense au rock, évidemment. Et quand on apprend qu'Eggleston joue du Bach, joue du Scarlatti, joue de la musique baroque, et est très très amoureux de cette chose-là, je le soupçonne quand même, quand il n'est pas filmé ni photographié, d'écouter peut-être des morceaux de Jimi Hendrix, peut-être des morceaux de Janis Joplin, peut-être Jefferson Airplane, peut-être les Grateful Dead. Mais en même temps, il n'en montrera rien parce que, bon, ça fait c'est une sorte de personnalité qui a toujours cultivé le mystère, ça c'est vrai. Et en même temps, il y a une espèce d'accord peut-être musical comme ça, entre son goût pour la musique baroque et cette photographie, en tout cas tout sauf classique et tout sauf romantique. Alors si elle est ni romantique ni classique, il nous reste le baroque.
Joël Meyerowitz, photographe.
There are some pictures that I respect a lot.
Il a pris certaines images que je respecte infiniment. Par leur sensibilité et ce qu'elles nous permettent de comprendre, de percevoir.
Tough and tender.
À la fois dur et tendre. Ce sont parmi les meilleures images de Bill. Je pense par exemple à cette image de ce vieil homme aisé et de son valet noir. Ils ont tous les deux la même posture. Ils ont été tellement longtemps ensemble qu'ils sont devenus des clones. Il y a dans cette image un sens de l'observation, une compréhension, une tendresse et cette vision excentrique du Sud qui rendent cette image importante. On sent la symbiose entre les Blancs et les Noirs qui ont appris à vivre ensemble, esclaves et maîtres, travailleurs et patrons. Oui, quand je vois cette image, je sens la sensibilité d'Eggleston à la culture du Sud.
C'est un personnage. Très... Moi, je viens du Nord. C'est
Peter Galassi.
C'est très particulier, le Sud, le vrai Sud, the Deep South. Voilà. Évidemment, Eggleston, il vient de ce monde-là, du Mississippi et de Tennessee. Vous connaissez peut-être, vous aimez le jazz, vous connaissez le chanson Parchment Farms. Oui, c'est le prison où effectivement c'est plutôt des Noirs qui sont en prison là-bas. C'était l'ancien Sud. Alors il vient de ce monde-là.
Mettons-nous à la place d'un habitant de Memphis. À la fin des années 60, début des années 70, il est dans sa voiture et il fait un tour du quartier et puis il aperçoit Eggleston en train de photographier. Qu'est-ce qu'il voit ?
Alors il voit un monsieur très bien habillé, En général, on ne sait pas très bien, mais dans toutes les photos sur lesquelles je connais de William Eggleston, il est toujours habillé en beige. Il a une cravate, il a les cheveux courts, mais dans les années 60 et 70, il fréquentait plutôt des gens avec des cheveux longs, à mon avis. Il y a quelques images comme ça, où des gens qui ressemblaient un peu à Dennis Hopper dans Easy Rider. Bon, voilà, je pense que c'est un peu ce genre de personnes qui étaient avec lui. En même temps, il est seul.
On peut imaginer que...
Agnès Cyr.
Désœuvré. On peut imaginer à quel point cette ville...
Cette ville.
Memphis. Enfin, ou la banlieue de Memphis, ou je ne sais pas exactement, enfin, ce delta du Mississippi dans lequel il vit. Voilà, enfin, en tout cas, dans ces photos, on le voit assez désertique et on imagine une vie assez désœuvrée, finalement, avec pour repère le supermarché, le marchand de glace, etc. Donc, finalement, il a un ami qui travaille dans un laboratoire qu'on trouvait à l'époque où il y avait des machines qui crachaient des photos couleurs. Donc, c'était le mariage, la communion, le baptême, etc. Ça crachait des petits tirages couleurs. Et cet ami travaillait là la nuit. Et lui, il allait passer ses soirées avec lui, peut-être à boire des bières, je ne sais pas. Et comme de façon hallucinatoire, il voyait tomber ses photos couleurs de la machine. Et il les trouvait très mauvaises. Et il a pensé qu'avec la pratique qu'il avait du noir et blanc, probablement, il arriverait à faire quelque chose d'intéressant avec la couleur. Il prépare une petite valise où il met à l'intérieur une pile de diapositives, puisque il faisait des diapositives. Et puis, il remplit cette petite valise, puisqu'il ne rentrait plus, il le laisse.
Vincent Gérard.
Quand il a photographié le type au hamburger,
réalisateur.
On a un type qui est assis sur une petite perspective comme ça de carreaux rouges et blancs, avec un petit avec son hamburger qui est en train de le croquer, et qui rappelle naturellement le Warhol, hein, inévitablement, enfin plutôt Warhol, Eggleston est passé par la factory, n'oublions pas. Et donc là, lui, il veut voir pour la première fois d'une façon comme un enfant, quoi. Quelqu'un qui mange un hamburger en couleur. C'est ce qu'il dit, mais il le pense vraiment, comme quand on lui dit alors c'est quoi la différence entre la noir et blanc et la couleur, et vos photos couleurs, c'était quoi pour vous la différence? Ben, c'est la couleur. C'est extraordinaire.
Ça me rappelle une phrase que disait Vinogrand à Eggleston. Eggleston s'en est souvenu, il le cite souvent, ça. Vinogrand lui a dit, mais tu sais, tu peux photographier n'importe quoi. Tout est possible, tout est photographiable. Et je pense que c'est plus Eggleston que Vinogrand qui a appliqué ça. C'est-à-dire que pour Eggleston, il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de mauvais moment. Il y a juste des bonnes lumières, des bonnes couleurs, un cadrage à trouver pour Eggleston, mais en même temps qui est un cadrage qui appartient qu'à lui. Je crois que c'est au tout début des années 70. Eggleston monte à New York, parce qu'il sait très bien que c'est là que ça se passe, et il rencontre Lee Friedlander et Gary Vinogrand, qui étaient des monstres sacrés de l'époque. Il leur montre... c'était assez facile, hein, c'était peut-être plus facile à cette époque qu'aujourd'hui. Il leur montre un portfolio d'images, et tous les deux vont voir... où ils lui disent d'aller voir John Swarovski, qui était le conservateur de la photographie au Musée d'art moderne de New York. Et Swarovski décide, en regardant le portfolio de Eggleston, de faire l'exposition. Il avait 27 ans, quelque chose comme ça.
Peter Galassi, j'ai travaillé au MoMA pour 20 ans en charge de la photo. J'ai été stagiaire pour la première fois il y a 40 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bill Eggleston. Les photographes passaient dans la rue, ils venaient prendre un café, tout le monde s'assoyait ensemble pour prendre un café avec Lee Friedlander ou Gary Winogrand. C'était un autre monde. Évidemment, Eggleston, qui habitait à l'époque à Memphis, il était né à New York de temps en temps.
In 1968, Bill Eggleston came to New York.
En 68, Bill Eggleston était venu à New York rencontrer de nombreux photographes d'ici. On avait passé toute une soirée ensemble et il m'avait montré une cinquantaine de tirages noirs et blancs, des petits 8x10. Et en retour, je lui avais montré 400 ou 500 diapositives couleurs. Et de 8h du soir à 3h du matin, il avait bu une demi-bouteille de bourbon. Et puis il s'est élevé, il m'avait dit «
C'est de la couleur qu'il faut faire ».
Et c'est vrai qu'il en faisait déjà à l'époque, mais à partir de cette nuit-là, il s'est vraiment concentré dessus.
La photographie sérieuse comme œuvre d'art, c'était un monde très petit. Très, très, très petit. Au moment d'un vernissage, tout le monde se connaissait, tout le monde s'intéressait à la photographie. C'était absolument le contraire du monde que nous avons actuellement.
Sarkozy regarde, semble quand même très, très intéressé. Et 2 ans après, l'exposition a lieu. Exposition qui est devenue mythique pour tout le monde de la photographie, mais qui à l'époque a été totalement décriée.
Très longtemps aux États-Unis, jusqu'aux années 70,
Brice Mathiessen.
La couleur a été considérée comme étant le domaine de la mode et de la publicité. Que tout d'un coup on puisse voir des images en couleur en photographie, c'était inadmissible dans les années 50 et dans les années 60. D'où cette espèce de débat qui a eu lieu avec l'expo de William Eggleston en 76. Très peu de gens ont été sensibles à la valeur artistique du travail d'Eggleston. Et quand on regarde un peu les critiques ont toutes été quasiment négatives. Et même très négatives. C'est-à-dire.
C'est banal.
Et ce terme de banalité, ce qui est même étonnant, c'est qu'en 76, l'œuvre de Warhol était absolument célébrée partout. C'est quand même le chantre de la banalité. Et tout d'un coup, il y a eu très très peu de critiques d'art dans les journaux et les magazines américains qui ont été capables de faire le lien entre le travail photographique de Stephen Shore ou de Eggleston et puis cette banalité qui était encensée dans le monde entier et qui caractérisait le travail de Warhol.
On trouvait que c'était vulgaire. Walker Evans venait d'expliquer que la photographie couleur était vulgaire. Que le dye transfer, qui était la technique de tirage qu'il utilise, et qui est une technique qui appartenait au monde de la publicité, puisque c'était 3 ou 4 couches de gélatine les unes sur les autres, etc., etc., était réservée à des choses vulgaires et commerciales. Bon, tout ça rentre au MoMA, est très critiqué, même des grands critiques, hein, je ne sais plus lequel, le New York Times, ou je ne sais plus lequel, enfin font des critiques qui démolissent cette expo. Mais des photographes comme Stephen Shore, Gary Winogrand, tous ces gens-là, pour eux, c'est l'éclosion d'un nouveau langage.
Joël Meyerowitz. Soyons honnêtes. Oui, j'aurais bien aimé avoir une exposition avant lui. Mais c'est vrai qu'avec ce travail, il avait sauté plus loin que moi. Il avait trouvé un truc et il avait constitué le premier, une œuvre. Tous ces petits tirages Kodak avec lesquels il se baladait et qu'il montrait. Moi aussi, je montrais parfois mes images à John Zarkovsky, mais c'était des diapositives. Ça marchait moins bien. Il fallait des tirages.
Bill put together that work and it had a very strange.
Bill, lui, avait défini une vision très étrange du Sud. Certains critiques y ont vu quelque chose de trop facile. Mais aujourd'hui, c'est évident qu'il avait mis le doigt sur une manière de décrire cette Amérique du milieu et du sud, et ça avait marché.
Et donc vous le rencontrez, Peter Galassi, alors que vous êtes stagiaire au MoMA, pendant l'exposition de 1976.
Oui. D'abord, c'était fascinant pour moi. De rencontrer ce gentleman. Mais vraiment, il habillait comme un gentleman, il parlait comme ça, il était toujours très correct, même si il avait un côté de sa vie qui n'était pas du tout correct. Oui, dans les boîtes de nuit, avec l'alcool et tout ça. Mais il était vraiment charmant, élégant, très intelligent, mais très... D'une politesse à l'ancienne.
Effectivement, tout le monde nous a dit ce type, c'est un punk, c'est un dandy punk. Alors là, on s'est dit, tiens, c'est intéressant ça.
Vincent Gérard.
Enfin, physiquement, il y avait un truc, quoi. Et puis, on l'a rencontré à Paris, donc la veille de l'expo. Et puis, il était un peu schlasse, comme ça, dans son lobby d'hôtel avec son fils. Et puis là, il fallait le convaincre, quoi. Donc, il était là, ok, on passait le test, quoi. Et là, moi, j'ai joué tout le film qu'on avait écrit. Et ils ont dit, ok, c'est bon, on y va. Bill fait, ok, let's go. Il dit, moi, je vous attends. Pas vous, Namène Fils, je vous attends, quand vous voulez. Et puis ils disent, la seule chose c'est que vous changez le titre, parce qu'à l'époque on avait un titre qu'on avait mis comme ça, qui s'appelait Absolute Eaglestone. Alors bien sûr, Absolute Vodka, on n'avait pas du tout pensé à ça. Mais le truc c'est que tout le monde aurait pu croire que quelqu'un comme Eaglestone, qui a essayé d'ailleurs d'aller à New York à un moment donné, mais qui n'est pas resté longtemps, est revenu à Memphis. Enfin, il est bien chez lui, quoi. Il est bien même s'il n'arrête pas de dire, et tout le monde dit, ici c'est nul, c'est vide. C'est immense, hein, Memphis, c'est une grande ville vide comme ça. Nous, quand on y était, il y avait quand même le Ku Klux Klan qui défilait avec ses quatre pèlerins devant les croix qui ornent une des entrées de Memphis. En même temps, il y avait un bébé qui était retrouvé mort dans le Mississippi. Enfin, il y avait une espèce de drame un peu faulknerien, comme ça, un peu lent. Memphis, c'est une ville étale, très très large, avec une population noire majoritaire, avec ses quartiers riches, d'ailleurs, dans l'un desquels habitait Eaglestone. Avec un centre-ville très étrange, parce que entre un espèce de Disney un peu pauvre, quoi, avec son tramway, etc. Vous faites 30 mètres, vous arrivez dans un quartier absolument désaffecté, avec des herbes partout. Enfin, on est véritablement dans le cœur du problème américain, c'est-à-dire la fascination et le rejet, qui nous a tout de suite, nous, bien entendu, plu.
Parce que c'est l'envers du décor, un peu.
L'envers du décor, non, parce qu'en fait, je pense que les États-Unis, ça a sans doute été un monde idéal ou un lieu idéal, mais c'est depuis longtemps terminé. Ça continue à jouer de cette image comme ça surannée, et en même temps, les années vont à leur perte d'une manière tranquille, quoi.
Régis Durand, critique et ancien directeur du Jeu de Paume.
Toute la littérature et la photographie du sud des États-Unis est hantée par la possibilité de l'étrange, du grotesque, de quelque chose qui serait vaguement inquiétant, anormal, d'une certaine façon. On trouve ça très très souvent chez ces auteurs. Alors, est-ce que ça tient à la géographie? Est-ce que ça tient à l'histoire du sud, l'histoire tourmentée? Je ne sais pas. Au fond, le sud des États-Unis, tel qu'on le voit chez lui, semble ne s'être jamais remis totalement des différentes catastrophes auxquelles il a été soumis.
Thomas Vesky, grand critique, dit une chose que je trouve touchante. Il dit que lui trouve que les photos qu'Eaglestone fait chez lui sont les meilleures. La croyance dans le vernaculaire, enfin très basique.
De chez lui,
voilà, tout c'est le son territoire, le Memphis, le Mississippi, enfin tout le sud, quoi, qu'il connaît par cœur. Même pour les Américains du Nord, le sud reste le lieu de l'histoire, quoi. Les vestiges sont là, toute la merde de américaine est encore là. Voilà, le grand fantasme du Southern Gothic, on a eu la chance de le vivre avant la mode contemporaine de Trou Détective, que j'adore.
Eaglestone photographie l'intime autour de lui. Aussi bien la première sphère, c'est-à-dire son four, son lavabo, son ventilateur, les choses dans sa maison. Mais il photographie également le marchand de glace où il va acheter sa glace régulièrement, le bar où il va chercher sa boisson, le jukebox vert sur le mur devant lequel il passe tous les jours. Et puis, quand il y a des figures humaines, soit ce sont des figures humaines isolées et perdues dans l'espace, gens qu'il ne connaît pas, soit des figures humaines extrêmement attachantes qui sont ses amis.
C'est tout sauf une photographie humaniste. Je pense qu'il y a davantage de chiens photographiés par Eaglestone que d'êtres humains. Il y a davantage de voitures que d'êtres humains aussi. Il y a davantage de morceaux, de textures ou de lumière assez étrange que d'objets d'un monde humain. Il n'y a pas de protestation sur les conditions de travail. On a pu le lui reprocher, hein, dans le sud des États-Unis, dans les années 50, 60, 70. Mais il n'y a aucun signe d'engagement quelconque. Alors évidemment, on peut le regretter, on peut le lui reprocher. Et en même temps, ça serait passé à côté de quelque chose qui, pour moi, est très important chez Eaglestone, c'est-à-dire qu'il inaugure une sorte de photographie, non pas inhumaine, mais une photographie qui met en œuvre des modes de photographie typiquement originaux, qui sont par exemple photographiés tel qu'un insecte à grande vitesse pourrait voir un espace. Je pense à la fameuse image du red ceiling, donc de ce plafond qui est un monochrome rouge avec une ampoule allumée qui pend du plafond et qui a été prise visiblement de très haut, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, mais en tout cas pas à hauteur d'œil humain. Et il y a pas mal de photographies comme ça qui sont prises soit de très haut, soit de très très bas. Il y a une fameuse image aussi où il va photographier ce qui se passe sous le lit, sous un lit. Alors est-ce que c'est la vision du rat, la vision du chien, peut-être la vision d'un basset, hein, d'un très bas, d'un chien très tout petit, bas sur pattes. On voit quelques paires de chaussures qui sont jetées là, on voit des saletés, des cotons-tiges usagés, une espèce de cadre doré qui est posé sous le lit comme si c'était dans une espèce de remise, hein, de grenier. Et quand on lui pose la question, un peu bête ou naïve, pourquoi avez-vous pris cette photo, il répond « I was just experimenting ». Je me contentais de faire une expérience.
But the Eggleston pictures I really like are often the ones that something to do with the relation between two dimensions.
Les images d'Eggleston ont vraiment quelque chose à voir avec un jeu sur la perception et les dimensions. Il a pris cette photo d'une sorte de porche, d'une maison, un patio, où deux ombres définissent le premier plan.
David Campagny, critique.
On est comme projeté dans l'espace. Bien sûr, vous savez que ce que vous voyez est plat, en deux dimensions, mais c'est fascinant comme la photo permet de passer de trois à deux dimensions et comment, par la suite, elle parvient à suggérer de nouveau la troisième, même si aucune photo ne peut atteindre ce degré d'illusion. Vous savez bien, parfois, quand un photographe regarde une scène, pour mieux imaginer ce que cela donnera en deux dimensions, il ferme un œil. Et puis, avec ses doigts, il forme un petit cadre. Eh bien, à l'inverse, quand on regarde une photo d'Eggleston avec un seul œil, votre cerveau recrée la troisième dimension, un effet de profondeur. Beaucoup de ces photos regardées d'un seul œil produisent cette illusion stéréoscopique.
On n'a jamais le sentiment que tout est donné dans l'image d'Eggleston, mais qui a un cache, c'est plutôt la photographie comme cache de quelque chose. On n'a pas tout le champ visuel. Il dit que l'homme américain paresseux veut avoir tout de suite le centre, et que ce centre, c'est l'objet important, et qu'en dehors de ça, n'existe rien. Alors, est-ce que c'est l'usage des drogues? Est-ce que c'est le fait d'habiter dans le sud des États-Unis, qui, je le répète, est un état périphérique? Eggleston répète qu'il s'intéresse davantage à la périphérie. Alors la périphérie, c'est peut-être aussi la marge, et que les images qu'il crée vont à l'encontre, et là c'est peut-être son engagement politique, elle crée une autre manière de voir le réel que la manière issue du rêve américain, ou même que la manière d'une certaine contre-culture avec son pittoresque et son folklore.
Je ne sais pas quel problème il tente de résoudre.
L'ennui ?
Oui, peut-être, l'ennui. Comment remplir ses journées ? Il y a ce film où on le voit errer dans la rue. Il prend des photos, on dirait un personnage échappé d'une pièce de Beckett, un chasseur, une silhouette voûtée qui cherche avec son appareil sous une voiture ou dans une vitrine la nuit. Un chasseur que rien ne satisferait. Et cette recherche constante, ça ressemble à une quête existentielle. Voilà, moi je m'appelle David Campagny et j'aime regarder des images. Et je suis incapable d'écrire sur Eggleston. La seule fois où j'ai essayé, c'était pour dire qu'il est impossible d'écrire sur lui.
C'est quelqu'un qui est quand même très timide. Beaucoup de gens nous ont dit, et sont ses enfants les premiers, nous ont dit quand on préparait le film, et vous savez, il dira rien. On a dit génial.
Vincent Gérard, oui, réalisateur.
S'il dit rien, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à dire. Donc on est allé dans ce quartier un peu huppé de Memphis. On est arrivé dans cette maison qui est un petit peu néo-italienne, là, qu'on voit dans la fin du film. Voilà, bleu-gris, un intérieur très beau avec un grand jardin, une piscine un peu décatie, des arbres, un parc un peu vide comme ça. Une Rolls empoussiérée dans le garage, puis Eggleston, à force d'alcool, est interdit de conduire dans plusieurs états, dont celui de Tennessee. Donc il a sa Rolls superbe, qui pourrissait dans le garage à l'époque. Et puis, bref, on arrive dans la maison et on rentre. Et Rosa nous dit à peine bonjour, il était 5h de l'après-midi. Et bref, on débarque. Et on nous fait venir dans le salon, immense salon. Il écoutait Bach à fond. Bach dans le salon à fond, Eggleston dans son canapé vautré, des flingues par terre, enfin des fusils de collection hein, sous les canapés, des flingues ici et là. Winston nous a raconté après qu'il venait vider les balles à une époque, des trucs, parce que Eggleston il tirait tout le temps à l'époque. Puis lui qui parlait, on comprenait absolument rien ce qu'il disait, donc on était là, yeah, of course, ce machin. Donc ça a commencé comme ça.
I have these photographic dreams.
Est-ce que c'est vraiment une voix?
Pictures are really...
Un peu beurrosienne, un peu beurreux sur les bords.
And in the dream, I think they're really there. They're real.
Mais plus
wake up
and... des variations, quoi. Et il dit quand même un petit accent sud qui se balade comme ça.
Don't try to go out and recreate the picture.
It'd be pretty hard.
It'd be pretty nice to be able to.
Oh, yeah. It's impossible. To me, impossible. I've never been able to.
They're gone forever. But it sure was a good dream.
Eggleston a toujours été un marginal d'une certaine manière. Il était un peu à part.
Régis Durand.
Il est difficile à classer. Son style photographique est difficile à caractériser, à identifier. Les photos qu'il prend, ce sont comme des pages d'un roman qu'il est en train d'écrire. Et on a l'impression qu'effectivement, il poursuit un récit, une vision qui se trouve être totalement ancrée là, dans ce sud, qui a fasciné beaucoup de gens qui en étaient issus, qui a donné naissance à une littérature et à une production visuelle exceptionnelle, très caractéristique. Il y a un mélange d'abandon, de déréliction. Hein. De signes épars qui indiquent que quelque chose est en train de mourir, de pourrir. Et en même temps, une véritable identité poussée jusqu'à quelque chose de presque malsain, parfois grotesque, parfois excessif, comme on trouve chez beaucoup de romanciers d'ailleurs, hein, chez Flannery O'Connor, chez Eudora Welty par exemple, qui était photographe aussi.
Alors évidemment, c'est la banalité même.
Brice Mathieusson.
Mais en même temps, ça travaille quelque chose qui est peut-être de l'ordre du paysage, où il y a beaucoup de rebuts. Donc cette idée de vieillissement des objets, de vieillissement de lampadaires, de devantures, de la rouille qui corrode. Alors évidemment, on peut y voir une métaphore du Sud, de la culture du Sud, qui est en voie d'extinction, en voie de disparition, qui là, pour le coup, va être entièrement englouti sous le flot de la société de consommation. Mais il y a quand même encore, en 1960 et au début des années 70, des espèces de poches de résistance de la culture du Sud, où on voit des baraquements délabrés, de la peinture écaillée, des objets rouillés, des voitures abandonnées. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'elles font là. Elles sont parfois dans un piteux état, hein, envahies par la végétation, ou alors corrodées par la rouille. On voit des façades qui n'ont pas été repeintes depuis 30 ans, 40 ans. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du temps qui a passé. Et en même temps, c'est mélancolique, mais ce n'est pas la nostalgie lourde et pesante. Hein. C'est plutôt de l'ordre d'un décor un peu inquiétant. Il y a quelque chose qui me frappe toujours chez Eggleston, c'est qu'il ne photographie jamais un événement, mais il photographie soit un événement qui est déjà passé, un accident de voiture, il photographie jamais l'accident de voiture, il photographie toujours une heure après, deux heures après. Ou alors il photographie, et là c'est presque quelque chose qu'il rattache à Hitchcock, il photographie des éléments du quotidien. Une femme avec un chignon invraisemblable dans un petit diner, un petit restaurant, avec un fauteuil en moleskine rouge des années 50. On ne voit pas avec qui elle est assise, mais on se dit, évidemment, il a vu Vertigo de Hitchcock. Bon, donc l'importance de la coiffure, de cette espèce de chignon qui est une architecture en soi, très tarabiscotée. C'est une scène de cinéma, et on a souvent le sentiment chez Eggleston qu'il photographie un moment de suspense, un moment où le suspense monte et où quelque chose va arriver.
Dans cette fiction, ce qui m'a aussi pas mal intéressée, c'est le bord du cadre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit pas qui est en dehors du cadre, et je trouve qu'il y a toujours une menace. Je trouve qu'on n'est pas tranquille dans ces photos, et que même quand ça prend un sens encore plus flagrant quand on voit quelqu'un avec, armé d'un pistolet assis sur son lit, c'est une photographie très célèbre et un peu étrange.
Un vieil homme, l'air pensif.
Voilà.
Qui regarde dans le vide et qui a...
Qui est assis sur son lit et qui a un pistolet.
Une main presque ouais. tendre ouais. posée sur son flingue.
Voilà. Ouais. On saute pas de joie quand on voit ces photos. C'est pas... On peut sourire, il y a de l'ironie, il y a de l'humour parfois. Cette dame avec son chignon, des choses comme ça. On sent de l'humour, mais je trouve ça plutôt triste. Quand on met les photos les unes à côté des autres, on sent un danger imminent.
Une grande invention d'Eggleston, c'est quand même cette photographie qui est quand même dans la tradition totale américaine de la photographie, hein, c'est-à-dire avec ses thèmes, quoi, hein, le paysage, la famille, la maison. On reconnaît chez tous les grands photographes américains, depuis le début du 20e, même fin 19e jusqu'à aujourd'hui, vraiment des thèmes récurrents, même chez les plus punk, même chez les plus trash, donc c'est drôle. Sauf que lui, là, il y a un truc sur l'angle, il y a un truc sur le hors-champ, il y a quelque chose qui ne veut pas voir mais qui cherche à voir. Donc ce hasard comme ça, objectif pour le coup, que lui dit avoir emprunté à Cartier-Bresson, parce que le truc de la nouveauté chez Eggleston, c'est l'angle, quoi. C'est quand même un truc qui est très peu présent chez Stephen Shore. Stephen Shore, c'est souvent une certaine frontalité, une composition finalement assez classique, quoi, de la photo. Alors que, là, je sais pas, il y a une espèce de déboîtage comme ça, c'est dévissé, quoi. Ça dévisse tout le temps chez Eggleston.
Donc, exemple.
Exemple, focale relativement courte d'un appareil posé au sol, avec au premier plan un tricycle qui est net, qui d'ailleurs fait beaucoup penser à des vues de Wells et d'Hitchcock, qu'Eggleston affectionne particulièrement. C'est deux cinéastes, particulièrement Hitchcock, mais aussi beaucoup Wells et toute la série noire des années 40-50. Il connaît très bien Eggleston, ça. Lui, il est plutôt du côté de l'abstraction, quoi. C'est-à-dire, dans le tricycle, Eggleston voit une forme. Voit pas un tricycle, c'est le grand truc de Cézanne, hein. Vous peignez quoi? Vous peignez une montagne? Non, je fais un tableau. Et je pense qu'Eggleston, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... c'est pas le tricycle qui l'intéresse, c'est la composition, c'est la forme, quoi. C'est la photo, il voit déjà la photo, il voit déjà le contraste, le flou, le hors-champ, le drame, etc. quoi.
Ou le gosse?
Oui, par exemple, oui, tout à fait. C'est quelqu'un, c'est le flâneur du à côté, quoi. Il y a une espèce de choses comme ça, de regard posé. Mais ce qui est très beau chez Eggleston, c'est qu'il n'y a pas de volonté, quoi. Il y a une espèce de... Il y a d'abord la composition, quoi. C'est-à-dire l'image lui saute aux yeux. Nous, on était... Des fois, on tournait dans des intérieurs où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on ouvrait notre diaph. Il dit non, vous devriez fermer votre diaph. Avant même qu'on filme, il disait fermez votre diaph, vous allez voir, parce que du coup, la couleur là-bas au fond, elle va ressortir à fond. Enfin, des choses, tu vois, c'est une espèce de scientifique, quoi, magnifique.
Ce qui l'intéresse, c'est vraiment comment la couleur vient créer des espaces qui sont des espaces presque d'aplat dans l'image et vient composer comme ça des rapports colorés avec des densités plus ou moins grandes, des aplats plus ou moins importants et comment tout ça va s'équilibrer un peu de manière à la manière d'un peintre. En tout cas, il y a une interview de lui où il parle de ça, hein, que la peinture lui a appris à composer la couleur. Et qu'il a appris à travers ça. Et je ne crois pas qu'on puisse, en aucune manière, prétendre qu'il formule une quelconque critique par rapport à la société de consommation. Mais c'est un aspect difficile de l'œuvre d'Eggleston, parce qu'il n'est pas sociologue du tout. Il n'y a pas d'aspect politique dans son travail. Il n'y a pas d'aspect documentaire même dans sa photographie, au sens de la photographie documentaire telle qu'elle a été théorisée et pratiquée par Walker Evans. Il n'y a pas non plus d'aspect expérimental sous l'agrandisseur ou hérité des surréalistes ou hérité d'une conception de la photographie qui consisterait à photographier toujours dans des conditions limites. Il n'y a pas du tout ça. Donc c'est très compliqué pour un critique, c'est très très compliqué de le mettre dans un tiroir et de dire voilà, Eggleston, c'est un grand documentariste du sud des États-Unis. Non, pas du tout, c'est pas ça. Lorsqu'il photographie un petit caissier, ou pas un caissier, mais un petit gamin qui ramasse des chariots sur le parking d'un supermarché, c'est pas la multiplication des chariots qui l'intéresse. Non, c'est comment l'image va se composer, comment la lumière va créer des ombres sur le mur qui est derrière, comment une personne qui arrive par derrière et qui est un peu floue va meubler un bout de l'image qui sans ça aurait été inintéressant. C'est comment sa propre ombre apparaît.
Donc c'est un flâneur de l'œil aussi, quoi. C'est un flâneur de... C'est pas que le corps et le social, quoi. C'est le type qui regarde, quoi. C'est un œil qui flâne plutôt. Chez Eggleston, ce qui nous intéressait, c'était un truc un peu basique où la parole finalement n'était pas essentielle. C'était il y a un espace qui est le film. On vous propose de venir y jouer, faire des photos, rien faire, enfin, le traverser, etc. Et nous, c'était pareil. C'est-à-dire que l'espace, on pouvait filmer hors champ alors qu'il était en train de nous parler, justement.
C'est un jeu que vous lui proposez ?
Ouais, c'est un jeu, mais pour nous aussi. C'est-à-dire se dire que dans l'espace du film, chacun peut faire ce qu'il veut, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Winston nous aidait beaucoup pour la stratégie, parce que
son fils,
Bill pouvait partir puis parvenir, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Il glisse entre les choses presque, et puis il y a quelque chose qui se passe. Je l'ai vu par exemple prendre des photos dans un taxi, il est devant, il a l'appareil photo sur les genoux, on est à un feu, et puis tac, il va prendre la photo.
Régis Durand, ancien directeur du jeu de paume.
Il a toujours accordé beaucoup d'importance à la vitesse. Comme beaucoup de grands photographes, ils ont cette rapidité dans le regard qui fait qu'ils saisissent la chose. Alors, ce n'est pas une question de l'instant décisif, ce n'est pas ça, parce que Eggleston n'est pas dans une logique de l'instant décisif, mais il est dans une logique de la capture de certaines configurations, de certaines compositions. Et ça, il faut les voir. Et il faut les voir vite, parce qu'elles ne reviennent pas.
Si la voiture démarre, ça lui est complètement indifférent de ne pas avoir fait la photo. Pas de regret.
Hervé Chandès, patron de la Fondation Cartier.
Un jour, j'étais avec David Lynch et puis je lui disais « ça serait bien pour l'exposition qu'on ait un nouveau portrait de vous ». On prépare ici à la Fondation Cartier donc l'exposition de Lynch. Et j'ai organisé la rencontre chez David Lynch à Los Angeles. Donc Lynch nous reçoit, il nous reçoit dans sa salle de cinéma, chez lui, voilà, dans laquelle il travaille. Et puis ils ont passé en fait l'après-midi à bavarder. Et puis David Lynch avait d'autres rendez-vous, donc on a commencé à partir, à traverser le jardin. Et c'est là que j'ai dit à William, j'étais avec Winston, j'ai dit à William, mais William, on est aussi venu pour faire le portrait. Ah tiens, j'avais oublié complètement. Il a sorti son appareil photo. David Lynch, il aime beaucoup les appareils photo, donc ils ont commencé à parler appareil photo, pellicule, que sais-je. Et puis je me suis assis dans le jardin, il y avait une petite table, on s'est assis avec William. Et puis il m'a dit, tu sais, je crois que j'ai appuyé qu'une seule fois. Et puis on est parti. Et c'était cette photo qui est devenue une photo fameuse parce qu'elle a été publiée partout et qui est un très beau portrait de David Lynch par William Eggleston.
La moindre des choses pour un photographe aisé, c'est d'être libre, c'est d'être un explorateur. Walker Evans, à la fin de sa vie, disait qu'il y avait quatre manières de survivre pour un photographe.
David Campagny, critique.
Soit vous êtes payé pour prendre des images, comme sur commande, soit vous êtes payé pour vos images à la manière d'un artiste, ou bien la photo est pour vous un loisir et vous gagnez votre vie autrement. Ou bien enfin, vous êtes suffisamment riche, et j'ai l'impression que c'est le cas chez Eggleston, qui n'a jamais manqué d'argent.
Ces gens-là, c'est pas... Même si ils aiment un peu la fête... de champagne, voilà. Le caviar, il aimait énormément et tout ça. Mais c'était un type sérieux. Et c'était l'art qui comptait. Mais c'était pas vraiment le caviar qui comptait.
Est-ce qu'il était travailleur?
C'est quelqu'un qui avait la chance, il n'a jamais travaillé pour gagner la vie. Et donc, pour lui, le travail, c'est sa vie. Oui, il jouait au piano très bien. Je crois qu'il a appris lui-même. Il était passionné de musique. Il fabriquait, je crois, avec des amis, des speakers, haut-parleurs, qui étaient parmi les meilleurs du monde, on dit. C'était un vrai artiste connaisseur dans ses propres domaines.
Il jouait son truc, et il jouait son truc en même temps, il s'amusait, hein, comme des fois il rentre dans le cadre, il ressort, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Enfin, il a bien vu que notre liberté pouvait totalement dialoguer avec la sienne. Ça n'embêtait pas d'aller tout au fond du cadre et de revenir.
Mais Bill, comédien, ou Egglestone, comédien, il a joué, je crois, lui-même dans une fiction.
Alors, il a effectivement joué dans un film qui est une sorte de biopic, si on peut dire, sur Jerry Lewis, un film, je crois, de 89, qui s'appelle, je crois, Great Balls of Fire. Il y a une espèce de chose très naturelle chez lui. De toute façon, il sait exactement ce que c'est une optique, donc il sait où se trouver, où quoi faire. Nous, il nous a beaucoup de fois surpris à venir vers la caméra, non pas faire une grimace, mais se mettre à un endroit très particulier, sortir du cadre. On s'est dit, attends, mais c'est pas possible, quoi, le type, c'est un acteur.
À la Fondation Cartier, à une époque, il y avait David Lynch, Patti Smith, il y avait tout le monde. Et j'ai dit à Hervé Chandès, le directeur, j'ai dit, mais je voudrais les filmer une minute comme ça, une minute de silence comme ça, en scope noir et blanc. Scope couleur, pardon. Donc William Eggleston était là, j'ai commencé par lui.
Raymond Depardon.
Donc voilà, et j'ai déclenché la caméra, et il est arrivé avec son Leica, comme ça, et il fumait, bien sûr. Et puis il est sorti du champ pour mettre ses cendres dans un cendrier. Il est revenu dans le cadre. Et puis, il m'a photographié. On comprend tout. C'est tout Eggleston, ce plan. C'est surtout sa façon de bouger. C'est un comédien formidable. Moi, je n'ai pas les moyens, je devrais le prendre comme acteur. Il tient le cadre, mais c'est incroyable. Il est rentré dans le champ. Il a habité l'image comme personne d'autre ne le fait. Tu déclenches ou tu ne déclenches pas la caméra, il ne change pas. Ça, c'est vraiment les grands... J'imagine que voilà, Marlon Brando, je sais pas quoi, Liz Taylor avait ça, quoi. C'est des gens qui habitent quelque chose.
La tienne. C'est lui qui joue, là ?
Oui.
Scène.
Alors, c'est très beau ça. Bah, la scène, non, c'est le grand truc de Bill, c'est que nous on voulait, alors je me rappelle très bien, tiens, c'est qu'on enfin, voulait. Dans son salon, au bout du grand salon, il y a. Un petit salon dans lequel il y a un petit atelier de musique, parce que Eggleston c'est un grand scientifique, comme on l'a déjà dit, mais qui fabriquait les amplis. D'ailleurs, son fils aîné, William III, a eu fait des enceintes, des trucs magnifiques. Hein. Et donc, Bill, lui, a fabriqué ses transistors avec ses trucs à lampe, donc il y a une espèce d'amplis qu'il fabrique, qui sont super bien. Il a un petit Korg, qu'il compose tout le temps des choses. En fait. Un des grands hobbies d'Eggleston, c'est de composer de la musique, quoi, d'enregistrer donc, des CD, etc. Et puis, donc, il y a un grand piano à queue dans le salon. Dans lequel il y a un impact de balle d'ailleurs. Et donc voilà, le truc, c'est qu'on aurait. On le voit dans le film à la fin, quand il parle de son rêve. On le voit jouer du piano, d'ailleurs, il parle de son rêve en jouant du piano muet dans le film. Hein. Et donc là, c'est ce morceau qu'on vient d'entendre qu'il est en train de jouer.
Il serait mécontent, Vincent Gérard, qu'on parle de lui comme de quelqu'un d'un peu borderline.
Non, je crois pas, parce qu'en même temps, Eggleston, c'est la dernière génération après la Beat Generation, comme ça, qui transition avec le rock, le punk, toute la partie justement dark side qui rentre dans les années 70. C'est-à-dire quelqu'un quand même qui se permet tout ce qu'il veut, qu'il soit connu ou pas, qu'il ait de l'argent ou pas, qui est d'ailleurs très dangereux comme jeu, parce que ça peut mener à la mort aussi. Mais ce qui est très beau, c'est... Voilà, il y a un aspect, ouais, il y a un côté punk peut-être quelque part, un côté dandy certainement, et en même temps, il fait son truc, quoi. Mais assez modestement, finalement.
Il manque qu'une seule chose ici, Vincent Gérard, c'est Eggleston lui-même. Il a décliné l'interview, d'autres s'y sont prêtés, et ça figure dans votre film. Il est impossible à interviewer.
Oui, bah nous, on a peu interviewé pendant tout le film. On a mis une interview dedans, en revanche, qu'un journaliste allemand a faite à Cologne. Et l'interview est très longue. Nous, on l'a remontée, si vous voulez, parce qu'il y avait vraiment des silences de 5 minutes réelles entre des questions et des réponses. Cette interview est souvent perçue dans le film comme une ironie. C'est-à-dire ce qu'il dit, et du coup, les non-réponses d'Eggleston ou les réponses d'Eggleston. Son rire, parce que vous avez vu qu'il rigole, il est complice quand même. Il dit, voilà, bon, mon pauvre vieux, tu me poses des questions, mais j'ai tellement rien à dire. Mais tout ça est assez doux, finalement.
Et c'est un monsieur qui fait penser à Vladimir Nabokov chassant le papillon. C'est-à-dire que le papillon, si on l'a loupé une fois, on n'a pas beaucoup de chance de le rattraper une deuxième fois. Et Eggleston disait toujours, moi, je prends une seule image de ce que je photographie, jamais deux. Bon, alors est-ce que ça fait partie de la légende ou pas? Donc il y a une manière extrêmement lente, à la fois lente et très très attentive, très très concentrée, d'arpenter des territoires.
Parce que ça devait faire jaser quand même, ce type en costume trois pièces, tiré à quatre épingles, bouton de manchette.
Non, je pense que c'est le conducteur de Memphis. S'il est un peu gentil, va aller le voir en lui demandant s'il a perdu quelque chose. Et peut-être que Eggleston cherche à photographier quelque chose qu'il a perdu et qu'il essaye de retrouver. On parle toujours de Nabokov comme disant « On m'a volé mon enfance » en Russie, où il n'est pas retourné. Je pense que Eggleston, on lui a peut-être volé le sud de son enfance. Et peut-être est-il à la recherche de quelque chose de cet ordre-là dans ses images.
Magnetic rag. Oh my god, that piece of junk. What the hell's wrong with you? You like that song. Play it.
C'était le cas Eggleston avec Martine Parr, photographe de mauvaise humeur, Brice Mathieu-San, écrivain et traducteur, Joël Meyerowitz, photographe en couleur, Vincent Gérard, réalisateur, Peter Galassi, ancien patron de la photo au Musée d'art moderne de New York, Agnès Cyr, de la Fondation Cartier-Bresson, Hervé Chandès, de la Fondation Cartier, Régis Durand, ancien directeur du Jeu de Paume, David Campagny, critique en trois dimensions, et Raymond Depardon, filmeur. Les morceaux de piano, interprétés par William Eggleston himself, sont extraits de By the Way, A Journey with William Eggleston, un film de Vincent Gérard et Cédric Laty, édité en DVD chez Agnès B. Merci à Jessica Retailleau de la Fondation Henri Cartier-Bresson, à Manon Lenoir, à Gilles Mora et à la Galerie Particulière. Attachée d'émission Alison Sinard, Christine Bernard, documentation musicale Virginie Gresset, coordination Irène Omelianenko, mixage Pierre Mine, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire d'Amaury Chardot pour Sur les Docks.
Cette émission sur les docks a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 décembre 2014.